merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un vrai honneur et plaisir d'être ici avec vous. Et donc, justement, dans l'introduction, Claire me présenter ses travaux, cet article en particulier, d'autres travaux que j'ai consacrés à surtout à la confiance, disons, à la confiance épistémique qu'on pourrait appeler d'une façon plus simple, tout simplement la crédibilité, enfin pourquoi on croit aux experts, aux intellectuels, pourquoi on croit aux autres en général dans l'acquisition de savoir, dans l'acquisition des connaissances. Je me suis posé la question dans mon travail, et disons, j'ai une formation d'épistémologue, enfin, donc je viens de ce type de background intellectuel, et essayant de comprendre quels sont, disons, quel est le sens qu'on donne au mot confiance dans les cadres épistémologiques, lorsqu'on dit qu'on fait confiance aux autres pour acquérir du savoir. Je suis, disons, tombée sur des problématiques qui sont plus générales sur la confiance. Enfin, donc, je me suis cultivée en philosophie des sciences sociales, en sciences sociales, en philosophie morale, pour essayer de comprendre, disons, un peu les origines, la généalogie de cette notion de confiance qu'on utilise en épistémologie, et voir, disons, quels étaient ses rapports avec la confiance, enfin, l'usage de confiance que vous avez. Qu'on a pu voir déjà ce matin. Donc, ici, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu un exposé assez général, donc, qui va, d'une certaine façon, répéter certaines choses qui ont été déjà dites, mais ça peut aussi être utile pour relancer la discussion. Et vers la fin de mon exposé, je vous présente plutôt ma vision de la confiance épistémique. Donc, commençons avec des exemples, disons, phénoménologiques. Lorsqu'on parle de confiance, voilà, c'est une notion qui a une phénoménologie très forte. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une notion aussi qui nous attire, qui nous engage beaucoup. Pensons par exemple à des exemples, des illustrations. Enfin, un médecin vous annonce que vous êtes atteint par exemple d'une grave maladie et que votre seule chance de guérir est de vous soumettre à une thérapie à la fois lourde et risquée. Et d'ailleurs, je prends cet exemple parce que c'est un exemple de terrain que j'ai étudié, la confiance dans le milieu médical et surtout lorsqu'il faut se soumettre, disons, apparemment votre corps est encore sain, vous n'avez pas particulièrement des signes de détresse et on vous dit que vous avez quelque chose de très grave et vous devez vous soumettre à des thérapies qui sont très lourdes, qui apparemment, disons, vous mettent dans un état qui est pire que l'état où vous vous trouvez au moment du diagnostic. Et c'est une situation, disons, très très compliqué psychologiquement et donc la confiance joue un rôle central. Et voilà, si vous êtes intéressé d'ailleurs à cette thématique, j'ai fait un travail plutôt empirique, en sociolinguistique, d'analyse d'entretien médecin-patient dans ces cas particuliers. Donc vous faites confiance à votre médecin et vous acceptez cette thérapie, disons, qui va vous faire sentir. Vous sentirez pire que votre état sera, disons, dégradé par rapport à l'état dans lequel vous êtes arrivé chez le médecin. Ou bien, je ne sais pas si vous avez jamais fait un cours de théâtre, il y a un exercice qu'on va vous faire faire tout au début, c'est de vous laisser aller en arrière, tomber en arrière, en faisant confiance que les autres vont vous rattraper. C'est quelque chose de phénoménologiquement très, vous l'imaginez, très fort. Enfin, vous devez faire confiance l'un aux autres qui vont vous attraper. Par exemple, vous exécutez, vous laissez aller, convaincu que les autres ne vous laisseront pas tomber. Ou encore, confiance qu'on fait tous les jours dans notre expérience quotidienne. Enfin, vous voyez inscrit sur une boîte de fromage blanc qu'il contient 0% de matière grasse. Vous n'êtes pas en mesure du tout de vérifier cette information. Et pourtant, vous faites confiance aux fabricants et vous achetez ces produits par rapport à d'autres produits pour respecter, par exemple, les consignes de votre régime alimentaire. Donc, lorsqu'on parle de confiance, on parle de tout cela, de tous ces phénomènes différents. Et bien sûr, c'est une phénoménologie très riche. On retrouve quelque chose en commun, mais c'est très difficile de saisir qu'est-ce qu'il y a en commun dans des des exemples qui sont si différents dans leur nature, est-ce qu'il y a quand même les mêmes émotions, les mêmes croyances ou les mêmes schémas d'action? Enfin, on a vu aujourd'hui, voilà, que c'est comme justement lui qui aurait définissait la confiance, c'est ce mélange complexe d'engagement, d'émotions et de croyances. Comme quelqu'un a dit dans la salle, justement, confier, le verbe confier vient du latin confidere, et ça a à faire bien sûr avec la foi, mais c'est signifie quand même de remettre quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en nous abandonnant, disons, de la sorte à sa bienveillance. Donc, on pourrait dire que le noyau dur de ces par exemple, de ces exemples que je vous ai faits, qui sont très, très différents l'un par rapport à l'autre, c'est lié à cette vulnérabilité acceptée. Enfin, le fait que nous donnons aux autres un certain pouvoir sur nous-mêmes, d'une façon, disons, volontaire, et de la sorte, nous nous mettons vis-à-vis d'eux dans un état de vulnérabilité. En fait, cette vulnérabilité acceptée, ça pourrait sembler, disons, au moins phénoménologiquement, un noyau commun des situations si différentes comme celles que je viens de décrire et qui sont des situations, bien sûr, qui sont tout à fait dans la vie quotidienne. Et bien sûr, on a évoqué aussi dans les discussions qu'on a eues une tension que je voudrais remettre quand même représentée. Et ici, parce qu'elle me semble assez centrale aussi, si on a pour les débats qui suivront dans cette série de séminaires, dans l'acceptation du risque de se mettre dans une situation de vulnérabilité, il y a un saut dans l'incertain qui est très souvent mis, souligné, disons, comme l'aspect, disons, caractéristique de la relation de confiance. Et disons, tous les traitements de la notion de confiance qui éliminent cet aspect, disons, de saut dans l'incertain semblent des éléments, disons, qui au fond ne saisissent pas vraiment la nature intrinsèque de la notion de confiance. Mais au fond, la confiance qu'on invoque si souvent aujourd'hui comme, disons, élément de base de la société, de la modernité, de la société moderne, prenez, disons, Anthony Giddens par exemple comme référence, enfin les sociétés démocratiques modernes sont des sociétés de la confiance, ce n'est pas justement une confiance qui est basée sur ces sauts dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est une confiance qui est basée sur le fait que dans une société démocratique et moderne, les autres sont contraintes d'une façon ou de l'autre à rendre des comptes. C'est ça, disons, la justification de la confiance dans une société démocratique. Et ça, disons, c'est le noyau de la confiance en philosophie politique, en théorie politique. Et donc, il semble y avoir un paradoxe entre la phénoménologie du phénomène, la phénoménologie de la confiance dans les phénomènes que je vous ai décrits, où il y a un abandon, disons, à une situation incertaine, un abandon qui crée, disons, une espèce d'attente d'engagement de l'autre partie, et une confiance désenchantée, disons, une confiance désenchantée qui est la confiance à la modernité, qui est une espèce de méfiance active. Le fait, je me fie à mes élus, par exemple, parce que je sais qu'ils sont tenus à rendre des comptes, tout simplement pourquoi ? Parce que s'ils ne rendent pas des comptes, je les élirai pas une prochaine fois. Donc, c'est par exemple la philosophe Honora O'Neill qui a très bien décrit ce contraste dans son ouvrage Autonomy and Trust in Bioethics. Par exemple, dans les problèmes de bioéthique et d'éthique médicale en général, on ressent un contraste très fort, une tension morale très forte dans les exigences des citoyens qui semblent, disons, demander quelque chose de paradoxal. D'un côté, ils demandent, par exemple, que l'institution médicale rende compte, donc toutes les procédures, par exemple, de consentement éclairé, d'amélioration, disons, des procédures institutionnelles et renforcement des procédures institutionnelles pour faire ainsi que les gens puissent faire confiance au fait que l'institution rendra des comptes sur, par exemple, sur l'acte médical qu'il va faire, donc exigence, disons, d'avoir des institutions fiables qui se basent, disons, créer une institution fiable passe par un processus de désenchantement de la confiance, enfin, où tous ces aspects riches phénoménologiques disparaissent. Enfin, c'est signer un formulaire de consentement éclairé, donc c'est tout ça, d'avoir une institution fiable. Et de l'autre côté, l'exigence que les gens ont des rapports de confiance, donc de se fier aux personnes, exigence donc de fonder leur confiance sur des qualités, disons, humaines, personnelles, du chaud, d'une certaine façon. Là, c'est une tension très forte, c'est une tension que je souligne parce que dans certaines questions, déjà, ça, d'une certaine façon, ça réémerge comme tension fondamentale liée à cette notion. Et je souligne aussi le fait que les risques d'insister trop sur les besoins de confiance dans les relations humaines, enfin, de confiance chaude, c'est de réintroduire d'une certaine façon un paradigme paternaliste de la confiance qui existe depuis l'histoire de l'humanité et que la modernité, disons, est censée dont la modernité est censée nous libérer. Enfin, on ne fait pas confiance aux personnes, là vraiment, on revient vraiment aux figures du pouvoir de Weber, etc. On ne fait pas confiance aux personnes dans une société moderne, mais on fait confiance aux institutions. Donc on désenchante la confiance, on désenchante le charisme, on désenchante les qualités personnelles et on insiste sur les procédures de fiabilité qui permettent aux institutions de rendre des comptes. Cette transition nous fait perdre quelque chose, mais nous fait gagner beaucoup plus. Moi, je suis italienne, je vous assure que à Naples, c'est beaucoup plus amusant et agréable de se promener dans la ville et on a l'impression de tisser des rapports de confiance beaucoup plus facilement, mais la vie est plus agréable dans son complexe à Paris ou à Bruxelles ou à Oslo parce qu'on peut faire confiance d'une façon désenchantée, même dans l'anomie sociale totale, dans le fait que les institutions répondront d'une façon pertinente à votre demande parce qu'elles sont tenues à rendre des comptes. Donc je souligne cette tension fondamentale, et cette tension dans les usages, cette espèce de phénoménologie riche et mélangée de la notion de confiance est due bien sûr au fait qu'on utilise à une vraie polysémie du mot qui a été très bien mise en valeur par Albert Hoguien dans un article qui est dans le recueil de Louis Quéré sur la grammaire de la confiance que je vous recommande vraiment parce que ça détaille tous les possibles usages grammaticaux, syntaxiques, vraiment sémantiques enfin, du terme confiance. Au moins la confiance on n'a pas ce mot, disons, on a au moins trois usages. Enfin, on parle de confiance comme état, un état où on se sent nous-mêmes, ou bien une société peut être dans un état de confiance. On parle de confiance comme acte ou comme processus. Enfin, on peut revenir sur ces notions, mais on en a déjà discuté ce matin. Et bien sûr, on parle de confiance comme sentiment. Enfin, on sait que, par exemple, la définition de Thomas Hobbes de confiance, Hobbes met la confiance parmi les passions humaines et pas parmi les croyances ou les actions. Pour Hobbes, la confiance est une passion produite par la croyance ou la foi que nous avons en celui de qui nous attendons ou nous espérons du bien. Donc, c'est une passion, un sentiment, et qu'on retrouve, enfin, la même définition, on le trouve aussi chez Locke. Je reviens sur la distinction confiance-foi qui a été déjà, je vais vite parce qu'il a été déjà discuté ce matin. Bien sûr, Zimmel définit la foi comme un état qui est au-delà du savoir et non-savoir, tandis que la confiance est un mélange, disons, du savoir et non-savoir, une espèce de dosage qui peut être équilibré ou déséquilibré, qui peut être rationnel ou irrationnel de savoir et de non-savoir. Donc une dimension cognitive et émotionnelle en même temps semble être nécessaire pour parler de confiance. Encore, confiance est différente par rapport à croyance et aussi à, disons, même à la pure croyance que le monde est fiable, enfin, parce que dans le disons, on pourrait dire que dans tout acte intellectuel, il y a une prise de risque, mais disons, la faire confiance implique aussi une dimension de risque. Et on pourrait soutenir que dans toute définition, disons, robuste de confiance, il y ait, on implique aussi une dimension relationnelle, même si, disons, dans certaines définitions, comme celle de Luhmann qui a été évoquée, même une confiance, disons, tout simplement dans la fiabilité du monde social autour de nous, on pourrait définir ça aussi de la confiance, mais là aussi, la confiance dans la fiabilité du monde social, c'est quand même très différent par rapport à la confiance dans la fiabilité du monde naturel. Enfin, si j'ai confiance dans le fait que demain, il y aura une température entre 0 et 20 degrés, parce que quand même le climat a changé beaucoup, et non pas 40 degrés, c'est par tout simplement une attitude, une posture inductive que j'ai sur le monde, qui est très différente par rapport à avoir confiance que le pont que je traverse ne s'écroulera pas. Dans la confiance que le pont que je traverse ne s'écroulera pas, il y a quand même une dimension relationnelle cachée, qui est la dimension, je fais confiance à des personnes qui sont les personnes qui ont construit ces ponts, et tout un système institutionnel qui assure cette construction. Et différence qui est bien indiquée par l'existence, par exemple, d'un délit d'abus de confiance. Enfin, c'est un crime qui a été introduit, par exemple, dans les droits français dans le 19e siècle, ou même avant, fin du... je pense dans le 1800 et quelques, donc c'est un délit ancien. On peut, disons, être puni par avoir abusé de la confiance des autres. Je voulais revenir sur la question des raisons de la confiance. Alors, comme on a dit ce matin, excusez-moi, cet après-midi, mais avant la pause, surtout Louis Quéré a bien développé l'approche, disons, rationaliste à la notion de confiance. Enfin, il y a toute une série de tentatives dans la tradition plutôt théorie des choix rationnels, théorie des jeux, etc., de expliquer, de réduire la confiance, disons, à un jeu, disons, un calcul des raisons que l'autre aurait de honorer cette confiance, et un jeu de coopération. Et cette approche, disons, semble justement être réducteur parce qu'il enlève, disons, un peu l'enchantement de la partie riche et chaude de la phénoménologie de la notion de confiance. Mais sur ce sur lequel je voudrais insister, là je reviens à ce que j'ai dit au début et à la tension, disons, entre confiance confiance comme saut et confiance, disons, basée sur, disons, sur la fiabilité, un pari raisonnable sur la fiabilité, par exemple, des institutions autour de nous. Je pense qu'il faut quand même penser que c'est important d'être clair sur les raisons. Et là, par exemple, je prends une citation d'un philosophe qui s'appelle Philippe Pettit, qui a écrit un très bon article sur le problème des raisons de la confiance. Même si, disons, une approche, par exemple, une approche en termes de théorie du choix rationnel peut nous sembler très réducteur, donc il faut peut-être ajouter une autre dimension, mais c'est bien qu'il y ait des bonnes raisons pour faire confiance. Enfin, c'est bien qu'on s'interroge sur les bonnes raisons qu'on a de faire confiance. Enfin, la confiance, on a justement, je reviendrai sur ce point, on n'a pas un devoir de confiance, on a plutôt des devoirs. La confiance est quelque chose qui crée des attentes normatives, donc on a plutôt des devoirs d'honorer la confiance, mais ça serait très dommage, ça serait très dangereux si on avait des devoirs de faire confiance. Peut-être on a des dispositions à faire confiance, ça... c'est quelque chose qui a été évoqué dans une question tout à l'heure et qui a été argumenté par plusieurs philosophes et psychologues. Enfin, peut-être on a des dispositions naturelles à faire confiance aux autres, mais on n'a pas des devoirs. Ces dispositions-là ne créent pas, disons, une espèce d'impératif moral à faire confiance. Si on n'a pas, on a plutôt... Dans un souci d'autonomie et de responsabilité personnelle, on a plutôt des devoirs, de s'assurer qu'on a des raisons pour faire confiance. Enfin, faire confiance sans faire confiance parce qu'on a un devoir de faire confiance, ça relève ou bien de l'irrationalité ou bien de pré-engagements qu'on peut avoir. Et par exemple, je suis née dans une culture telle que je ne peux que faire confiance, par exemple, à mon père. Enfin, tout ce qu'il dit, pour moi, je le prends pour vrai parce que je ne peux pas m'empêcher de rompre cet engagement. Alors, j'assume la responsabilité de cet engagement, mais ça ne serait pas une bonne raison. Donc, je n'ai pas ce devoir-là. Et le fait que, disons, que je ne suis pas capable d'articuler les raisons que j'ai pour faire confiance, c'est plutôt une limite morale par rapport à la responsabilité que j'ai par rapport à mes actes que une qualité morale. Donc si la confiance est souhaitable, il faut encore comprendre pourquoi. Donc, si les atmosphères de confiance sont souhaitables, il faut encore expliquer pourquoi. C'est dans peut-être l'engagement réciproque que une atmosphère de confiance crée et qu'on peut dire que la confiance est une valeur en soi souhaitable, mais ce n'est pas un devoir de faire confiance aux autres. Donc on a mentionné, Louis Carré a discuté longtemps, ce matin sur la confiance, la notion de confiance comme un chassement d'intérêt, théorie qui a été proposée par Russell Harding il y a une dizaine d'années. L'idée que donc j'ai au moins cette raison l'idée c'était pour Harding vraiment d'isoler une espèce de petit noyau dur qui est commun à des expériences de confiance et des relations de confiance qui sont très différentes. Mais en tout cas il dit je peux toujours réduire la relation de confiance à une relation dans laquelle je fais confiance à quelqu'un si j'ai des raisons de croire qui sera dans son intérêt de prendre en compte mes intérêts. Même si ces intérêts ne sont pas des intérêts qui sont maximisés au niveau de la rationalité. Enfin, il peut avoir un intérêt à prendre en compte un intérêt parce qu'on est engagé dans une relation d'amour, par exemple, parce qu'on est engagé dans une relation de respect réciproque, etc. Donc la sphère des intérêts peut être élargie bien au-delà des intérêts, disons, qui maximisent nos utilités. Enfin, donc, mais ça me permet par exemple d'expliquer dans des interactions par exemple commerciales où je prends des risques où je ne sais pas si l'autre va me vendre quelque chose qui est valable ou pas, je peux toujours penser disons qu'au moins je peux faire confiance au fait qu'il a un intérêt aussi à prendre en compte mes intérêts, sinon la relation ne se poursuivra pas. Les limites de ces approches, moi je les trouve plutôt dans le fait qu'ils ancrent les raisons dans un intérêt mutuel pour la coopération, plus que dans le fait de réduire l'aspect chaud de la relation de confiance. C'est que, au fond, dans une approche en termes théorie du choix rationnel, il faut supposer qu'il y a un intérêt pour la coopération qui n'est pas expliqué par la théorie. Et je pense que la seule autre façon d'expliquer le fait qu'on a un intérêt à tenir compte des intérêts des autres qui ne soit pas basé sur la coopération, justement, ça serait basé sur la reconnaissance ou sur la réputation, sur le souci de reconnaissance. Enfin, mais au fond, on a besoin d'un principe externe qui n'est pas donné par la théorie pour expliquer pourquoi les gens ont intérêt à tenir compte des intérêts des autres. Mais comment expliquer l'intérêt pour la coopération? La confiance semble donc être c'est une conséquence de cet intérêt. Elle ne peut pas l'expliquer. Typiquement, vous savez, ce type de jeux d'interaction sont modélisés dans la théorie des jeux comme jeux justement réitérés. Enfin, le dilemme du prisonnier, qui a été un peu le modèle de jeu de coopération, d'un jeu, disons, qui fait émerger une stratégie coopérative, vous explique comment on peut avoir intérêt à choisir cette solution coopérative, donc où on a tous les deux un résultat qui n'est pas le meilleur possible payoff, parce que le meilleur possible payoff, c'est pour lui celui de nous coopérer, pour l'autre celui-là. Donc on a le deuxième meilleur payoff, mais qui est tellement, mais on a avec par exemple des chiffres de ce type-là, c'est très facile à voir. Si on coopère trois fois, on a déjà, ou quatre fois, on a déjà plus en coopérant qu'en se défiant. Donc là aussi, les problèmes de la théorie des jeux en général dans ces contextes, c'est que s'ils illustrent les contextes dans lesquels normalement la confiance émerge, ils ne disent rien sur la confiance elle-même. C'est-à-dire, c'est dans la coopération que la confiance émerge, mais c'est, de toute façon, ça reste inexpliqué par ces théories. Pourquoi ? Et je reviens à rien. Le premier, disons, décide de choisir cette stratégie et non l'autre. Ou bien il voit un intérêt pour la coopération future et donc alors il faut présupposer déjà la coopération. Mais il y a des jeux, par exemple, qui s'appellent One Shot, où au fond, quelqu'un peut avoir des avantages à se défier, à ne pas coopérer sans payer des prix. Et on voit que, par exemple, dans les résultats expérimentaux, par exemple, on voit que les gens coopèrent quand même. Donc, on n'explique pas pourquoi on fait les premiers gestes de coopération. Donc, ceci amène beaucoup d'auteurs à penser qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à l'acte de confiance qui crée, au-delà des intérêts, une pression normative à réciproquer la confiance, qui ne dépend pas du fait qu'on a un intérêt. Mais c'est une pression normative qu'on ressent et qui fait ainsi qu'on réciproque l'acte de confiance. Une définition qui a été donnée de confiance interactive, donc confiance qui est explicite entre deux personnes pour faire confiance, pour qu'une personne ait des raisons de faire confiance, a été donnée par Philippe Pettit, que j'ai déjà cité avant. Il donne la définition suivante qui me semble assez utile. Enfin, une personne a des raisons de faire confiance à une autre si elle lui fait confiance pour accomplir l'action A, sa confiance est manifeste pour l'autre, et elle s'attend à que l'autre soit disposé à attacher une plus grande utilité à accomplir l'action A pour la raison que cela constitue une façon de se montrer digne de la confiance qu'on lui a fait dans les premiers points. Donc, disons, il y a une espèce d'aspect générateur de l'acte de confiance. Si je fais confiance à un autre et l'autre s'en rend compte, donc là aussi on réduit au cas de la confiance interactive, qui est une confiance, disons, vis-à-vis, où les gens se rendent compte qu'ils sont engagés dans une relation de confiance. J'ai une attente, mon acte de confiance crée une attente à moi, que l'autre personne soit plus disposé à réciproquer, à honorer ma confiance pour le fait que je lui ai fait confiance. Enfin, le fait de faire confiance, disons, crée une espèce de cercle vertueux. On a parlé de ça, on a évoqué ça tout à l'heure dans l'exposé de Pierre Lillet. Rapidement, je voudrais, appliquer un peu ces modèles, ces théories qui existent de la confiance sur lesquelles on peut discuter longtemps, au cas de la confiance épistémique, qui est le cas qui m'intéresse de plus près. Alors, qu'est-ce que la confiance épistémique ? Je vous ai dit, enfin, la confiance dans l'autorité intellectuelle. C'est, là aussi, on parle de phénomènes qui sont très, très différents. On fait référence, bien sûr, lorsqu'on parle de confiance épistémique, à la déférence qu'on a, par exemple, vers les maîtres, les autorités intellectuelles qui nous influencent dans notre vie mentale, la confiance aveugle dans l'expertise. On nous dit qu'il y a eu une nouvelle découverte, enfin qu'il y avait 9 planètes, maintenant les planètes sont 8. Là, on défère d'une façon aveugle, d'une certaine façon, une forme de confiance aveugle dans une communauté d'experts qui connaît plus que nous. La confiance comme évaluation de la réputation intellectuelle, on croit à certaines personnes sur plusieurs domaines de connaissances parce qu'on connaît leur réputation intellectuelle. Moi, ici, je vous ai mis un portrait de Robert Boyle, qui était un scientifique au XVIe siècle, au XVIIe siècle, excusez-moi, en Angleterre, qui a joué un rôle particulier, disons, dans la fixation un peu du modèle, du prototype du scientifique désintéressé, gentleman, avec une bonne réputation, auquel on pouvait faire confiance. Un historien des sciences qui s'appelle Stephen Chapin a consacré un ouvrage à la formation, disons, de la réputation scientifique dans l'histoire des sciences. Et bien sûr, on parle aussi de confiance épistémique, de confiance dans ce que les autres nous disent, dans la simple posture de confiance qu'on assume l'un vis-à-vis de l'autre lorsqu'on s'échange des informations. Si je descends du train de Namur, par exemple, aujourd'hui, je suis descendu du train, j'ai fait confiance à une personne que je n'avais jamais vue dans ma vie, qui m'a dit venez, suivez-moi, et qui m'a amené à l'université. Et je pense en fait que j'étais rationnel de le faire, mais ce n'est pas seulement une évaluation a posteriori où j'ai redécrit ma vie comme une série de chances, des bons choix, mais je pense que j'avais des raisons, et c'est très difficile, disons, dans les cas épistémiques, de comprendre quelles étaient les raisons pour se fier à l'inconnu dans la gare d'une ville que je ne connais pas, où je n'ai pas d'indice, sauf le fait que j'étais invité à une conférence et que quelqu'un m'attendait, donc j'avais au moins l'indice qu'il y aurait eu quelqu'un à la gare à m'attendre. Donc il y a une différence fondamentale qu'on analyse dans le domaine de l'épistémologie de la confiance entre croire les autres et croire la parole des autres. Et cette différence, je vous la souligne parce que, de toute façon, disons, pour moi, dans la façon où j'ai essayé de la rendre, recoupe un peu les deux approches de la confiance qu'on a vues tout à l'heure, disons, une approche plus basée sur une confiance morale qu'on fait aux autres, une approche plus rationnelle sur des raisons qu'on a de penser que l'autre personne soit fiable. Croire la parole des autres est quelque chose de très spécial. En fait, c'est un acte de confiance très spécial. Ça veut dire que dans certaines situations, nous nous sentons légitimés à croire à l'autre personne, tout simplement parce qu'elle nous dit quelque chose, sans raison, disons. L'acte de parole même, disons, engendre une dimension de légitimité dans le fait que je me fie à l'autre. Il y a, disons, deux approches fondamentale, je disais, dans ce domaine, une approche qu'on pourrait appeler réductionniste, selon laquelle la justification de la confiance que je fais dans la parole de l'autre est toujours, donc, par exemple, dans un cas de témoignage, qui est le cas, disons, analysé toujours dans cette littérature, le cas central où on fait confiance aux autres, on fait confiance à la parole des autres. Et la justification d'un témoignage est toujours réductible à des raisons indépendantes du témoignage même, de l'acte de parole même, qui sont fondées sur des sources de connaissances plus fondamentales, comme la perception, la mémoire et l'inférence. Je ne crois pas aux autres parce que je ne crois pas à la parole des autres pour des caractéristiques qui sont typiques de l'acte de communication même, mais je crois l'autre parce que j'ai des raisons indépendantes de les croire, des raisons, disons, je peux toujours avoir des vérifications, une façon de vérifier indépendante. Pensons par exemple à des raisons indépendantes que je peux avoir de croire un autre dans un cas justement d'acquisition des connaissances. Je suis capable d'évaluer sa meilleure position épistémique. La personne qui vient me chercher à la gare, par exemple, elle me dit qu'elle est de la ville, et donc je me fie au fait qu'elle connaîtra mieux que moi le parcours. Donc j'ai une raison pour me fier qui est indépendante de ce qu'elle dit, mais c'est une raison qui a à faire avec ma capacité d'extraire de certains indices de fiabilité du contexte. Ou bien, dans le cas de l'expertise, par exemple, je peux faire confiance, je peux être incapable de vérifier moi-même l'information, par exemple, que j'ai lu sur une revue scientifique, etc., sur un journal, mais je peux faire confiance au processus de filtrage de l'information. Par exemple, je sais que les revues scientifiques utilisent un processus de review par les pairs pour les articles, de référage par les pairs, donc je me fie à ce processus, je pense que le résultat, ce sera plus fiable que l'information que je lis dans d'autres contextes. Parce que, ou bien je me fie aux contraintes institutionnelles, au fait qu'il y a par exemple des sanctions dans les cas de mensonges, etc. Ou bien je peux me fier à la, parce que je connais la pratique, je sais que normalement quand je demande l'heure, on me dit la vérité, donc voilà, c'est une forme d'induction généralisée. Ou bien la compétence conversationnelle, ça peut aussi me donner des raisons de penser que quelqu'un est en train de me dire quelque chose de valable, enfin de vrai, parce que c'est très difficile, par exemple, de mentir et de rester cohérent, ou la plausibilité du contenu du témoignage. Enfin. Donc, une approche réductionniste, c'est de dire qu'on a toujours des raisons indépendantes de l'acte de parole même, donc on a pour faire confiance à l'autre. Donc on peut, d'une certaine façon, réduire la confiance épistémique à un état cognitif de croyance sur la probabilité que l'autre personne dit la vérité et soit compétente et bienveillante. Toute une autre approche qu'on normalement on fait remonter au philosophe écossais Thomas Reid, tandis que la position réductionniste est toujours faite remonter à David Hume. C'est son traitement de pourquoi il ne faut pas se fier des miracles dans lesquels il propose cette position. Pour l'antiréductionniste, pour les positions antiréductionnistes en épistémologie de la confiance, et les témoignages de l'autre, la parole de l'autre, est une forme de connaissance unique qui n'est pas réductible à d'autres formes de connaissances plus fondamentales. Donc l'auditeur, la personne qui écoute, a une garantie épistémique qui est indépendante de l'information dont il peut disposer sur le locuteur et le contexte du témoignage. Donc la parole de l'autre est une source de légitimation épistémique à l'écran. Il y a quelque chose dans l'acte de dire qui crée une légitimation épistémique. Et là aussi, disons, ça... C'est une façon de saisir une phénoménologie riche de la confiance épistémique. Parfois, on se sent justifié de dire « je crois à ça parce que quelqu'un me l'a dit enfin, ». Parce que cette personne me l'a dit. Disons, le fait de me le dire l'engage d'une certaine façon à le fait de me le dire l'engage à se tenir à certaines normes de véracité. Il y a deux types, disons, de justifications dans ce domaine de l'épistémologie pour justifier, disons, la légitimité que nous avons à croire aux autres. Certaines justifications qui sont données par un nombre d'auteurs, qui sont basées, disons, sur le fait que c'est le langage même, c'est certaines propriétés structurelles du langage qui nous donnent la garantie épistémique du fait que si quelqu'un connaît, sait quelque chose, dans les transferts d'informations linguistiques, cette vérité est maintenue, disons, donc les propriétés structurelles du langage nous assurent, nous donnent la garantie épistémique du fait que la vérité se maintient. Et puis, il y a toute une autre approche qui est quand même plus intéressante et plus riche pour lier la dimension, disons, épistémique à la dimension morale. C'est ce qui revient à dire que l'acte de parole, l'acte de dire quelque chose, suscite des attentes normatives sur la vérité de ce qui est dit. Par exemple, un philosophe qui a discuté ça récemment, qui s'appelle Richard Morin, mais c'est une position qui est discutée par d'autres philosophes. Disons, l'idée, c'est que les parlants assument la responsabilité de ce qu'ils disent, et le simple fait que quelqu'un me dit quelque chose d'une façon délibérée lui donne une partie des responsabilités sur ce que je suis amené à croire. Donc, mon problème ici, c'est de dire, est-ce que nous sommes justifiés à avoir des attentes normatives de ce type-là? Est-ce que le fait que quelqu'un, qu'on est engagé, disons, dans un échange conversationnel, nous justifie à avoir des attentes normatives de ce type-là? Que l'autre doit se conformer à la vérité? D'abord, enfin, il y a pas mal de questions qu'on peut soulever ici, des questions qui sont assez symétriques par rapport aux questions qui ont déjà été soulevés dans la discussion tout à l'heure, en général sur la légitimité de nos attentes normatives suscitées par le fait qu'on a fait un acte de confiance, en général, au-delà du cas épistémique. Il y a des discussions différentes, je ne vais pas rentrer trop dans les débats. Je pense qu'une position intéressante que je voudrais quand même critiquer ici, je serai très brève, est celle de Bernard Williams, qui est un philosophe moral, mais qui a consacré son dernier ouvrage au problème de la véracité et de la vérité et de la confiance dans les contextes donc épistémiques, enfin d'acquisition dans les contextes d'acquisition des connaissances. Ce que dit Williams au fond, c'est de dire bah oui, nous sommes justifiés à avoir ces attentes normatives parce que si nous essayons de comprendre qu'est-ce qui motive les gens à être sincères, et donc c'est que il y a, disons, dans les relations humaines une valeur intrinsèque qu'on donne aux relations de confiance. Et ce point, lui, il développe avec un travail très intéressant dans son livre qui s'appelle Vérité et Véracité, sur la généalogie de la notion de vérité et la notion de confiance, en disant, au fond, en faisant une hypothèse qu'il appelle généalogique, mais ça pourrait être vraiment une hypothèse phylogénétique, au fond, en disant, nos sociétés se sont structurées, il y a une espèce de, il parle d'un état de nature initial où, au fond, les relations de confiance ont un avantage sur la survie, parce que et on peut, disons, être confiant parce qu'on coopère plutôt avec dans un domaine des relations de famille, enfin familiales, donc les liens forts sont des liens affectifs, chargés affectivement forts et qui ont des avantages de survie. Et donc on peut penser qu'on a gardé cette espèce de disposition de traits psychologiques, enfin de disposition à faire confiance aux autres, et donc c'est l'attente que je peux avoir sur l'autre personne, c'est que le fait de dire la vérité dépendra du fait qu'il est disponible enfin à développer une relation de confiance avec moi. Donc moi je vois les choses d'une façon très différente. C'est une discussion sur laquelle je me suis engagée depuis longtemps sur nombreux travaux. Je défends une idée sur la confiance épistémique beaucoup plus, disons, légère. Enfin, on n'a pas une disposition à dire le vrai, ça, c'est malheureusement on a beaucoup d'exemples, mais au fond c'est vrai qu'il y a quelque chose de phénoménologique riche dans la relation de confiance engendrée par la parole, qui est en fait un phénomène à analyser. Et je pense en fait qu'on adopte une posture de confiance lorsqu'on nous adresse la parole et vis-à-vis de la parole des autres. Mais c'est pas, disons, c'est le fait que nous mettons dans une situation de vulnérabilité épistémique et cognitive, par exemple en demandant de l'information à quelqu'un d'autre, nous crée pas des attentes morales, mais plutôt des attentes pragmatiques sur les actions épistémiques des autres à notre égard. Nous adoptons donc effectivement une posture de confiance dans l'intention de notre interlocuteur de contribuer d'une façon appropriée, disons, à la conversation, et c'est-à-dire de générer un contexte mutuel d'informations partagées pour le bien de la conversation. Mais donc une posture de confiance est toute la vulnérabilité cognitive que nous acceptons dans un échange conversationnel, pas plus que ça. Nous nous mettons dans une posture de confiance et acceptons de créer un contexte commun d'hypothèses partagées sur le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte, ça nous déresponsabilise et ça nous légitime à accepter tout ce que l'autre personne nous dit comme vrai. Donc c'est une forme de confiance virtuelle que nous pouvons retirer si d'autres informations interfèrent, si on a par exemple des indices évidents que la personne par exemple est malveillante. Donc les attentes normatives qui se crée dans les contextes où on communique, c'est des atteintes normatives que l'autre personne essaiera de contribuer, disons, d'une façon appropriée à l'échange. Et si j'adopte une posture de confiance, ça me permet, disons, de révéler avec l'autre personne tout un ensemble de valeurs partagées, et des connaissances, des valeurs, disons, partagées sur la forme qu'une conversation doit prendre. Mais la responsabilité finale sur ce que nous croyons par les biais d'autrui est partagée entre nous et l'autre. Enfin, c'est pas, nous ne pouvons jamais, disons, nous ne sommes jamais dans une situation où notre vulnérabilité épistémique est telle qu'on confie à l'autre toute responsabilité sur ce que nous croyons. Enfin, on partage, on se met dans une posture de confiance réciproque pour arriver à se échanger des informations, mais disons, le filtrage de cette information revient encore à la responsabilité des sujets épistémiques individuels. Donc je pense qu'on peut, disons, réduire les atteintes normatives dans les cas épistémiques à des atteintes, disons, plutôt pragmatiques, donc moins chargées au niveau moral, etc. Bon, je m'arrête ici. Excusez-moi, j'étais un peu longue.